Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers lectrices et circuiteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal, suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La première réunion du dialogue stratégique de haut niveau entre l'Indonésie et la Corée du Sud. Le progrès technologique sans la présentation des informations au public. L'exposition de la Journée nationale de la presse HPN en 2017 introduit l'industrie des médias au public. Le président Jokowi veut qu'il y ait le transfert technologique dans le développement de MRT, LRT et du train rapide. Renforcer la coordination, le chef de BKPM recueille immédiatement les responsables locaux et enfants. La Malaisie va commander des navires de guerre à l'Indonésie. Voici le journal complet. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, A.M. Fakhir, et son homologue de la République de Corée, Lim Sung Nam, ont co-présidé la première réunion du dialogue stratégique de haut niveau de le travail entre l'Indonésie et la République de Corée à Jakarta le 6 février 2017. La première dialogue stratégique de haut niveau de travail est organisée afin de renforcer les relations bilatérales comme la réalisation de résultats de la visite d'État du président Joko Widodo en République de Corée en 2016. A.M. Fakhir, après la réunion, a dit « Plusieurs programmes qui ont discuté dans cette réunion sont entre autres la coopération bilatérale dans le domaine de défense, économique, socio-culturel, consulaire et des mains d'œuvre.
Ini pertemuan pertama kita sebut strategic dialogue.
C'est notre première réunion, nous appelons le dialogue stratégique entre la Corée et l'Indonésie, qui est un mandat de la réunion du président de la Corée du Sud et l'Indonésie l'année dernière, qui assigne les deux vice-ministres des Affaires étrangères pour tenir le dialogue comme prise de stock de nos relations dans tous les aspects politiques, économiques, socioculturels, régionaux et multilatéraux. Et les questions qui seraient discutées comme politiques, nous verrons quels mécanismes de différents types de forums que nous avons, comme la commission mixte au niveau des ministres des Affaires étrangères, un comité mixte de coopération économique et d'autres comités, nous passons en revue les progrès que nous avons réalisés. A.M. Fakhir a ajouté qu'ils ont également partagé leur point de vue sur les questions stratégiques régionales et mondiales sur les intérêts communs de ces deux pays. La République de Corée est un partenaire stratégique pour l'Indonésie. En 2016, ce pays est le sixième grand partenaire commercial de l'Indonésie et se classe au 9e rang parmi les plus gros investisseurs étrangers en Indonésie. Le gouvernement indonésien encourage toujours les entrepreneurs coréens à accroître leurs investissements dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et de la sécurité alimentaire. Pendant ce temps, pour la Corée, l'Indonésie joue un rôle important dans la région, en particulier dans le secteur économique et commercial. Le premier dialogue stratégique de haut niveau de travail a identifié une coopération stratégique qui sera exécutée par la coopération bilatérale. Des représentants des délégations se sont joints au ministère coordinateur des affaires économiques, au ministère coordinateur des affaires maritimes, au ministère de la Défense, au ministère du Commerce, au comité de coordination des investissements et au ministère des Affaires étrangères. La deuxième réunion du dialogue stratégique de haut niveau se tiendra en Corée en 2019. Le développement technologique a changé le style du public à recevoir des informations étant diffusées par les médias. Selon le président de l'exposition de la Journée nationale de la presse 2017, Adi Trisnanto Langdi Ambon, les Molouks, aujourd'hui, des médias doivent être en mesure de fournir des informations qui sont plus courtes mais denses au public, ayant une forte activité dans leur vie quotidienne. La personne des médias doit être en mesure de suivre le changement de mode de vie du peuple, de recevoir les informations et de suivre la tendance des progrès technologiques.
Karena masyarakat makin lama makin instant, contohnya yang terjadi.
La société est de plus en plus instantanée. Comme exemple, le quotidien est seulement lu son titre. Si on regarde les médias numériques et les médias sociaux, ils utilisent toujours des phrases courtes. Ce sera peut-être l'une des caractéristiques de nos médias. Comment présenter les informations au public? Je pense que la génération actuelle n'aime pas de phrases longues. Adi Trisnanto encourage également l'industrie des médias de se rapprocher de la communauté. Cela peut être fait par l'introduction du processus de la présentation des informations au public. Selon lui, ces efforts peuvent éliminer la distance entre le public et les médias, y compris devient un outil de contrôle de la vérité et de l'équilibre dans les informations qui sont diffusées. L'exposition de la Journée nationale de la presse HPN en 2017 qui a lieu dans la ville d'Ambon devrait introduire l'industrie des médias au public. Il a été déclaré par le responsable de l'exposition, Adi Trisnanto Langdi à Ambon. L'exposition était ouverte par le vice-gouverneur des Molouks, Z. Sahuburua, lundi matin, heure locale. Adi Trisnanto souhaite l'introduction de l'industrie des médias publics puisse améliorer l'intérêt des gens dans l'industrie des médias et mieux apprécier le produit des médias. Si les gens savent l'industrie de la presse, on espère qu'ils comprennent ce qui se passe dans cette industrie, mieux connaître et libre pour profiter de la production de l'industrie de la presse. En outre, il y a des aspects de l'éducation. Les élèves et les étudiants qui visitent l'exposition sont plus compréhensifs à propos de l'industrie de la presse. Peut-être maintenant, ils comprennent qu'un animateur de télévision est plein avec le monde scintillant, mais ils ne comprennent pas derrière elle. L'exposition de la Journée nationale de presse 2017 a été participée par plus de 100 stands de divers secteurs. Est également animée par les Molouks Expo 2017 pour promouvoir le potentiel des Molouks dans les produits de services en vedette et le tourisme de l'archipel. L'exposition de la Journée nationale de la presse aura lieu jusqu'à 9 février et sera également animée par l'attraction culturelle des Molouks. Cette exposition est gratuite et ouverte pour le public de divers milieux. Le président Joko Widodo a présidé une réunion en huis clos pour discuter des projets de train léger LRT Jakarta et Palembang au bureau présidentiel de Jakarta. Lors de l'ouverture de la réunion en huis clos, le président Joko Widodo a admis que les entreprises d'État d'Indonésie n'ont pas d'expérience dans un projet de construction de transport de masse sur la Terre. Par exemple, Mass Rapid Transit, MRT, LRT et le train rapide. Par conséquent, la construction d'un certain nombre de projets de transport de masse en Indonésie devrait être utilisée comme la reine de l'apprentissage ou le transfert de technologie. Le président Joko Widodo a déclaré que les projets de construction du LRT à Jakarta et à Palembang doivent constamment vérifier ses progrès. Ceci est pour éviter des problèmes sur le terrain qui ont accumulé. Le président a dit un certain nombre de problèmes à résoudre, tels que l'acquisition de terres, les plans de financement, l'agencement aux infrastructures soutenantes. Toutes ces questions doivent être détectées le plus tôt possible pour trouver la solution. Le chef du conseil de la coordination des investissements BKPM, Thomas Trikasi Lembong, prend des mesures proactives pour renforcer la coordination en rassemblant les responsables locaux liés aux investissements. Cette mesure est prise à la réunion de coordination nationale de BKPM qui aura lieu dans la troisième semaine de ce mois. le chef de BKPM Thomas Lembong dans un communiqué évalue les synergies des agents d'investissement entre le gouvernement central et régional est important pour soutenir la réalisation de l'objectif d'investissement en 2017 qui atteigne 678,8 millions de roupies. L'objectif d'investissement de la prochaine année qui dépassera 863 trillions de roupies. Selon lui, la réunion de coordination a un programme pour encourager la mise en œuvre des résultats de la réunion à huis clos sur un guichet unique concernant la nécessité de la coordination plus intensive avec le gouvernement régional. Il a ajouté, BKPM collaborera également avec le ministère de l'Intérieur afin d'optimiser davantage les services d'investissement pour les investisseurs. La Malaisie effectuera la signature du contrat officiel avec PT PAL Indonesia pour la réservation du navire de guerre du type de multi-hull support ship de 163 mètres. Le président directeur de PT PAL Indonesia, M. Firmansyah Arifin à Surabaya lundi, a déclaré qu'au mois d'août 2017, les deux parties avaient prévu la signature du contrat. La confiance de la Malaisie à PT PAL Indonesia basée sur la qualité des matériaux utilisés. Les exportations de navires de guerre à la Malaisie et le deuxième commande de navires de type landing platform dock reçu par PT PAL Indonesia. Auparavant, la Malaisie a commandé LPD de militaires des Philippines. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serviteur, voici donc le commentaire ayant pour le titre les élections régionales et la politique d'Arusang. Le climat politique dans plusieurs régions d'Indonésie est plus chauffé avant la mise en œuvre des élections régionales simultanément le 15 février 2017. Certes, les paires de candidats du chef régional et le chef adjoint essaient dur pour gagner cette élection. Pas un peu de matériel, le temps et l'énergie sont épuisés tant au niveau provincial qu'au niveau du maire et de la résidence. Lors de la mise en œuvre de l'élection générale, les concurrents, sympathisants et cadres, même les électeurs, violent souvent la transgression. La chose qui est faite souvent est la pratique de la politique de l'argent. Le Conseil de surveillance des élections, Bawaslu, en tant qu'organisme de l'organisateur électoral qui servit à surveiller la mise en œuvre des élections générales dans les régions indonésiennes, a déclaré que la pratique de la politique monétaire se produit encore potentiellement dans les élections régionales 2017 qui a lieu simultanément dans 51 régions du pays. La politique de l'argent est une tentative d'influencer les autres en utilisant des récompenses matérielles, c'est-à-dire l'achat et la vente des votes dans le processus politique et de distribuer l'argent ou des marchandises et d'influencer les électeurs. La forme de cette violation dans la campagne se fait généralement les sympathisants, cadres ou même les dirigeants de partis politiques avant le jour exact de l'élection générale. La pratique de la politique de l'argent dans l'élection pourrait être un précurseur à la corruption. Seuls les candidats qui ont des grands fonds pour mener bien une campagne massive pour être connus et attirer le public de voter ce candidat. Tandis que les candidats avec des fonds limités, même si qualifiés, ne seront pas connus du public. Après avoir remporté l'élection, le candidat gagnant à l'élection va essayer de retrouver les fonds qui ont été sortis au cours de la campagne avec de diverses façons. C'est clair. La politique de l'argent n'est pas seulement une violation de l'élection, mais elle est un crime électoral, parce que ces pratiques ont enlevé les droits et la dignité des citoyens. La loi numéro 10-2016 concernant les élections régionales mentionne que les donateurs et les récepteurs d'argent dans les élections peuvent être soumis à pénal. Espérons que l'agence de surveillance des élections ou Bawaslu peut bien superviser la mise en œuvre des élections et pour la mise en œuvre des élections régionales simultanément qui est propre, honnête et équitable ainsi que libre de la politique de l'argent. Chers auditeurs, c'est le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons présenter l'histoire d'aujourd'hui. Le 7 février 1991, Jean-Bertrand Aristide a été assermenté comme président de Haïti. En 1990, Jean-Bertrand Aristide a remporté l'élection présidentielle en Haïti pour atteindre plus de 67% de vote. Il a pris ses fonctions le 7 février 1991 et est devenu le deuxième leader de Haïti, étant élu démocratiquement. Après avoir prêté serment, il a fait le ménage dans l'armée et il a été renversé par un coup d'état militaire 8 mois plus tard. Un coup d'état militaire le 30 septembre 1991 a fait Aristide et tomber et a quitté le pays. Le 7 février 1992, la signature du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht ou le traité de l'Union européenne a été signé le 7 février 1992 par des membres de la communauté européenne à Maastricht, les Pays-Bas. Le projet de traité est rédigé dans une réunion du Conseil européen le 9 décembre jusqu'au 10 décembre 1991 dans la ville de Maastricht. Le traité encourage la formation de l'euro et a créé la structure en pilier de l'Union européenne. Cet accord a fixé les trois piliers de l'Union européenne, à savoir la communauté européenne, la politique étrangère et la sécurité commune, et les affaires de la justice et intérieure. Le 7 février 2009, les incendies de forêt à Victoria, en Australie. Le 7 février 2009, les incendies ont frappé de nombreuses régions dans l'État de Victoria et une petite partie de l'Australie du Sud et la Nouvelle-Galles au sud de l'Australie. Sur la base de la carte satellite montre que le feu provenait de feux de brousse, ensuite propagé rapidement en raison de vents forts et le temps sec de l'été. Les incendies ont balayé les forêts et les zones résidentielles jusqu'à 9 février 2009. Les incendies ont fait au moins 170 morts, brûlé environ 700 maisons et couvrent une superficie d'environ 3000 km². Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons maintenant la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie et la Corée du Sud renforcent la coopération ». Le gouvernement de l'Indonésie et la Corée du Sud ont tenu une première réunion, le dialogue stratégique de coopération de haut niveau, qui a eu lieu le lundi au ministère des Affaires étrangères à Jakarta. La réunion était présidée par le vice-ministre des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir, et le vice-ministre de la Corée du Sud, Lim Sung-nam. La réunion visait à renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Corée du Sud, comme la mise en œuvre des résultats de la visite d'État du président indonésien Joko Widodo en Corée du Sud en 2016. L'ordre du jour qui est en cours de discussion à la réunion, entre autres, la coopération bilatérale dans le domaine de la défense, l'économie, sociale, la culture, consulaire et les travailleurs. Les délégations des deux pays ont également discuté de son point de vue sur les questions stratégiques au niveau régional, mondial, concernant les intérêts des deux pays. La Corée du Sud est un partenaire coopération stratégique pour l'Indonésie. Ce pays est le 6e plus grand partenaire commercial et le 9e plus grand investisseur pour l'Indonésie en 2016. Le gouvernement indonésien continue également à encourager les hommes d'affaires sud-coréens à accroître les investissements dans les infrastructures, l'énergie et la sécurité alimentaire. Après la réunion, le ministre indonésien des Affaires étrangères, M. Ayem Fahir, a déclaré que le gouvernement de l'Indonésie et la Corée du Sud continuaient la coopération de la fabrication de jets combattants KFX-IFX, mais cette coopération doit attendre l'accord de licence des États-Unis. Auparavant, le ministre indonésien de la Défense, M. Ria Mizar Triakudu, a déclaré que l'Indonésie compterait sur la défense aérienne à l'avion de combat, le KFX-IFX, fait conjointement avec la Corée du Sud dans les 5 prochaines années. L'Indonésie et la Corée du Sud, en janvier 2016, ont signé un contrat d'une valeur de 1,3 milliard de dollars américains pour le développement de nouveaux avions de combat. Sur la base d'un accord signé avec Korea Aerospace Industry, ou KAI, le ministère de la Défense de l'Indonésie va investir d'environ 1,6 trillion de won dans le programme Corée-Indonésia Fighter Expérimental. La deuxième réunion de dialogue stratégique de coopération de haut niveau entre l'Indonésie et la Corée du Sud se tiendra en Corée du Sud en 2019. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, A.M. Fahir, et son homologue de la République de Corée, Lim Sung Nam, ont co-présidé la première réunion du dialogue stratégique de haut niveau de le travail entre l'Indonésie et la République de Corée à Jakarta le 6 février 2017. La première dialogue stratégique de haut niveau de travail est organisée afin de renforcer les relations bilatérales comme la réalisation de résultats de la visite d'État du président Joe Widodo en République de Corée en 2016. A.M. Fahir, après la réunion, a dit « Plusieurs programmes qui ont discuté dans cette réunion sont entre autres la coopération bilatérale dans le domaine de défense, économique, socio-culturel, consulaire et des main d'œuvre.
Ini pertemuan pertama. Kita sebut strategic dialogue.
C'est notre première réunion, nous appelons le dialogue stratégique entre la Corée et l'Indonésie, qui est un mandat de la réunion du président de la Corée du Sud et l'Indonésie l'année dernière, qui a signé les deux vice-ministres des Affaires étrangères pour tenir le dialogue comprise de stock de nos relations dans tous les aspects politiques, économique, socio-culturel, régional et multilatéral. Et les questions qui seraient discutées comme politiques, nous verrons quels mécanismes de différents types de forums que nous avons, comme la commission mixte au niveau des ministres des Affaires étrangères, un comité mixte de coopération économique et d'autres comités, nous passons en revue les progrès que nous avons réalisés. A.M. Fahir a ajouté qu'ils ont également partagé leur point de vue sur les questions stratégiques régionales et mondiales sur les intérêts communs de ces deux pays. La République de Corée est un partenaire stratégique pour l'Indonésie. En 2016, ce pays est le 6e grand partenaire commercial de l'Indonésie et se classe au 9e rang parmi les plus gros investisseurs étrangers en Indonésie. Le gouvernement indonésien encourage toujours les entreprises coréens à accroître leurs investissements dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et de la sécurité alimentaire. Pendant ce temps, pour la Corée, l'Indonésie joue un rôle important dans la région, en particulier dans le secteur économique et commercial. Le premier dialogue stratégique de haut niveau de travail a identifié une coopération stratégique qui sera exécutée par la coopération bilatérale. Des représentants des délégations se sont joints au ministère coordinateur des affaires économiques, au ministère coordinateur des affaires maritimes, au ministère de la Défense, au ministère du Commerce, au comité de coordination des investissements et au ministère des affaires étrangères. La deuxième réunion du dialogue stratégique de haut niveau se tiendra en Corée en 2019. Le développement technologique a changé le style du public à recevoir des informations étant diffusées par les médias. Selon le président de l'exposition de la Journée nationale de la presse 2017, Adi Trisnanto lang di Ambon, les Molouks aujourd'hui des médias doivent être en mesure de fournir des informations qui est plus courtes mais denses au public, ayant une forte activité dans leur vie quotidienne. La personne des médias doit être en mesure de suivre le changement de mode de vie du peuple, de recevoir les informations et de suivre la tendance des progrès technologiques.
Karena masyarakat makin lama makin instan, contohnya yang terjadi.
La société de plus en plus instantanée. Comme exemple, le quotidien est seulement lu son titre. Si on regarde les médias numériques et les médias sociaux, ils utilisent toujours des phrases courtes. Ce sera peut-être l'une des caractéristiques de nos médias. Comment présenter les informations au public? Je pense que la génération actuelle n'aime pas de phrases longues. Adi Trisnanto encourage également l'industrie des médias de se rapprocher de la communauté. Cela peut être fait par l'introduction du processus de la présentation des informations au public. Selon lui, ces efforts peuvent éliminer la distance entre le public et les médias, y compris devient un outil de contrôle de la vérité et de l'équilibre dans les informations qui sont diffusées. L'exposition de la Journée nationale de la presse HPN en 2017 qui a lieu dans la ville d'Ambon devrait introduire l'industrie des médias au public. Il a été déclaré par le responsable de l'exposition, Adi Trisnanto Langdi à Ambon. L'exposition a été ouverte par le vice-gouverneur des Molouks, Z. Sahuburua, lundi matin, heure locale. Adi Trisnanto souhaite l'introduction de l'industrie des médias publics puisse améliorer l'intérêt des gens dans l'industrie des médias et mieux apprécier le produit des médias. Si les gens savent l'industrie de la presse, on espère qu'ils comprennent ce qui se passe dans cette industrie, mieux connaître et libre pour profiter de la production de l'industrie de la presse. En outre, il y a des aspects de l'éducation. Les élèves et les étudiants qui visitent l'exposition sont plus compréhensifs à propos de l'industrie de la presse. Peut-être maintenant, ils comprennent qu'un animateur de télévision est plein avec le monde scintillant, mais ils ne comprennent pas derrière elle. L'exposition de la Journée nationale de presse 2017 a été participée par plus de 100 stands de divers secteurs. Est également animée par les Molouks Expo 2017 pour promouvoir le potentiel des Molouks dans les produits de services en vedette et le tourisme de l'archipel. L'exposition de la Journée nationale de la presse aura lieu jusqu'à 9 février et sera également animée par l'attraction culturelle des Molouks. Cette exposition est gratuite et ouverte pour le public de divers milieux. Le président Joko Widodo a présidé une réunion en huis clos pour discuter de projets de train léger LRT Jakarta et Palembang au bureau présidentiel de Jakarta. Lors de l'ouverture de la réunion en huis clos, le président Joko Widodo a admis que les entreprises d'État d'Indonésie n'ont pas d'expérience dans un projet de construction de transport de masse sur la Terre. Par exemple, Mass Rapid Transit, MRT, LRT et le train rapide. Par conséquent, la construction d'un certain nombre de projets de transport de masse en Indonésie devrait être utilisée comme la reine de l'apprentissage ou le transfert de technologie. Le président Joko Widodo a déclaré que les projets de construction du LRT à Jakarta et à Palembang doivent constamment vérifier ses progrès. Ceci est pour éviter des problèmes sur le terrain qui ont accumulé. Le président a dit un certain nombre de problèmes à résoudre, tels que l'acquisition de terres, les plans de financement, l'agencement aux infrastructures soutenantes. Toutes ces questions doivent être détectées le plus tôt possible pour trouver la solution. Le chef du conseil de la coordination des investissements BKPM, Thomas Trikasi Lembong, prend des mesures proactives pour renforcer la coordination en rassemblant les responsables locaux liés aux investissements. Cette mesure est prise à la réunion de coordination nationale de BKPM qui aura lieu dans la troisième semaine de ce mois. Le chef de BKPM, Thomas Lembong, dans un communiqué, évalue les synergies des agents d'investissement entre les gouvernements central et régional est important pour soutenir la réalisation de l'objectif d'investissement en 2017 qui atteigne 678,8 trillion rupiah. L'objectif d'investissement de la prochaine année qui dépassera 863 trillions rupiah. Selon lui, la réunion de coordination a un programme pour encourager la mise en œuvre des résultats de la réunion à huis clos sur un guichet unique concernant la nécessité de la coordination plus intensive avec le gouvernement régional. Il a ajouté, BKPM collaborera également avec le ministère de l'Intérieur afin d'optimiser davantage les services d'investissement pour les investisseurs. La Malaisie effectuera la signature du contrat officiel avec PT PAL Indonesia pour la réservation du navire de guerre du type de multi-hull support ship de 163 mètres. Le président directeur de PT PAL Indonesia, M. Firmansyah Arifin à Surabaya lundi, a déclaré qu'au mois d'août 2017, les deux parties avaient prévu la signature du contrat. La confiance de la Malaisie à PT PAL Indonesia basée sur la qualité des matériaux utilisés. Les exportations de navires de guerre à la Malaisie et le deuxième commande de navires de type landing platform dock reçu par PT PAL Indonesia. Auparavant, la Malaisie a commandé LPD de militaires des Philippines. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, voici le magazine de couleurs indonésiennes ou Pesona Indonesia, édition de mardi. Ce soir, nous vous amenons dans un voyage culinaire en province d'Aceh, précisément en région Pidi. Alors, restez avec nous au RRI World Service ou La Voix de l'Indonésie. Outre par en courte, vous pouvez également écouter notre émission via www.voi.co.id. Chers amis, les habitants d'Aceh sont amoureux de la nourriture. Cela peut être vu par le grand nombre de lieux à manger ou restaurants. À partir d'un restaurant climatisé jusqu'à la sauzée, c'est-à-dire au bord de la rue, tous les repas sont ouverts leur appétit. On connaît la gastronomie d'Aceh lui-même étant mélangée de différentes cultures telles que l'arabe, l'Inde, le Siam ou le Thaïlande, l'Espagne, la Chine et aux Pays-Bas. Mais la plus grande influence est la cuisine d'arabe et indienne, qui utilise beaucoup d'herbes et d'épices. Par conséquent, si vous venez à Aceh un jour, essayez de profiter de la cuisine typique d'Aceh. Si vous êtes une des fans de nouilles, vous pouvez essayer la nouille ou mie en Indonésie. Mi Chalwe.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, la nuit ou mi de Chalwe est le plat de la région de Pidi ainsi que sur la côte de nord de la province d'Aceh. Cette nuit prend celle de bâton pour le matériel de base mi Chalwe ou chalwek bâton, où la forme de nouille est plus grande que la nouille en général. Donc, ne soyez pas surpris si on appelle mi chalwek comme spaghetti à la Aceh. Cependant, il y a aussi mi chalwek fait de vermicelle ou de nouilles jaunes. Pour faire cette nouille, il est tout à fait unique. Quand les nouilles sont généralement directement cuites sur place que nous achetons, mais la nouille de chalwek, les condiments et complémentaires se fait à des commerçants. Quand elle sera fendue, tous les moules sont cuisson à nouveau. Le commerçant, il suffit de prendre quelques nouilles et complémentaires et le servir sur une assiette.
Donc, les acheteurs ou les clients ne doivent pas attendre longtemps. La plaque à quelques minutes de nuit peut être appréciée. Donc, c'est pourquoi cette cuisine est appelée mi chaluek. Chaluek, en langue d'Aceh, consiste ou c'est-à-dire à insérer un main dans le plat contenant la nourriture et le prendre. Chers amis, si vous voulez acheter mi chaluek ou la nuit de chaluek, il existe 4 types de nuit de chaluek que vous pouvez choisir selon le goût. Le premier, il y a le mi chaluek faisant la sauce au arachide. Des nuits chaluek porte pommade ou salade. La troisième, le mi chaluek prend le tofu. Et la dernière, mi chaluek avec le tempeh, c'est-à-dire le repas qui est fabriqué par le soja. Pour la sauce, il y a la sauce ou d'assaisonnement piment subtil haricot qui donne la sensation de savoureux et délicieux. Il y a aussi la sauce aux arachides et le bouillon de légumes à l'usage arrosé. Après avoir sélectionné le type de mi chaluek, ce qu'on aime, c'est-à-dire, le vendeur cède les nuits chaluek votre commande avec une pincée supplémentaire de craquelin rouge et blanc. Chers amis, la voix de l'Indonésie dans 80 du monde, à propos de la région de Pidi, mi chaluek plus délicieux avec le goût de l'original est certainement là, c'est-à-dire de la province Aceh et précisément de la région de Pidi. Mi chaluek plus délicieux avec le goût de l'original, en particulier dans la région de Gronggrong de Pidi. Cependant, à Banda Aceh, la capitale de la province, il y a aussi les vendeurs de chaluek. Mais le goût est un peu différent et n'est pas occupé que ceux du district de Pidi. Pas difficile de trouver de vendeurs la nuit de chaluek. Les commerçants de mi chaluek généralement vendent à un marché en bordure de route ou dans les endroits bondés. En plus, vendre avec le chariot. Certains vendent dans la camionnette, devant le magasin et il y a aussi avoir un petit kiosque. Le prix est relativement pas cher, autour de 5 jusqu'à 10 000 rupiah par paquet, c'est-à-dire environ un demi-euro ou moins d'un euro. Chers amis de la voix de l'Indonésie dans le monde entier, c'était le magazine de couleur indonésienne ou Pesona Indonesia et ayant le titre La nuit de chaluek ou mi chaluek en province de d'Aceh. Et malheureusement, le temps ne permet plus et nous terminons notre programme Le magazine de la couleur indonésienne. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir. À bientôt.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Voici la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est membeli perlengkapan orang sakit. Je répète, membeli perlengkapan orang sakit ou en français, acheter des équipements de la santé. Restez avec nous sur www.voi.co.id. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Membeli. Membeli. En français, acheter. Perlengkapan. Perlengkapan. En français, les équipements. Orang sakit. Orang sakit. En français, la personne malade. Pulang. Pulang. En français, rentrer. Hari ini. Hari ini. En français, aujourd'hui. Pergi ke mana? Pergi ke mana? En français, aller où? Pasar. Pasar. En français, le marché. Kakak perempuan. Kakak perempuan. En français, sœur. Sakit. Sakit. En français, malade. Berbaring. Berbaring. En français, se reposer. Di tempat tidur. Di tempat tidur. En français, au lit. Mengapa? Mengapa? En français, pourquoi? Karena. Karena. En français, parce que. Pusat penjualan. Pusat penjualan. En français, le centre commercial. Alat-alat kesehatan. Alat-alat kesehatan. En français, les équipements de la santé. Obat-obatan. Obat-obatan. En français, les médicaments. Potongan harga. Potongan harga. En français, la réduction. Popok dewasa. Popok dewasa. En français, la couche d'adulte. Alas tidur. Alas tidur. En français, le matelas. Tisu basah. Tisu basah. En français, les tissus mouillés. Sarung tangan. Sarung tangan. En français, les gants. Mandi. Mandi. En français, se baigner. Bien, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez la suivre après moi. Cette conversation est entre Rita A et Anna B au bureau. A. Anna, maaf, hari ini kita tidak bisa pulang kantor bersama. Anna, maaf, hari ini kita tidak bisa pulang kantor bersama. En français, Anna, désolé, on ne pourrait pas rentrer ensemble aujourd'hui. B. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? En français, tu vas aller où? A. Saya mau pergi ke pasar Pramuka. Saya mau pergi ke pasar Pramuka. En français, je vais au marché Pramuka. Saya mau membeli perlengkapan untuk kakak perempuan saya yang sedang sakit. Saya mau membeli perlengkapan untuk kakak perempuan saya yang sedang sakit. En français, je vais acheter des équipements de la santé pour ma sœur qui est malade. Dia harus berbaring di tempat tidur. Dia harus berbaring di tempat tidur. En français, elle ne peut que se reposer au lit. Mengapa harus di pasar pramuka? Mengapa harus di pasar pramuka? En français, pourquoi au marché pramuka? A. Pasar pramuka adalah pusat penjualan alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Pasar pramuka adalah pusat penjualan alat-alat kesehatan dan obat-obatan. En français, le marché pramuka est le centre des équipements de la santé et des médicaments. Kalau membeli banyak, kita bisa mendapatkan potongan harga. Kalau membeli lebih banyak, kita bisa mendapatkan potongan harga. En français, il y a des réductions si on achète beaucoup. B. Kamu membeli apa saja? Kamu mau membeli apa saja? En français, qu'est-ce que tu vas acheter exactement? A. Saya mau membeli popok dewasa, alas tidur, tisu basah untuk memandikan, dan juga masker. Saya mau membeli popok dewasa, alas tidur, tisu basah untuk memandikan, dan juga masker. En français, je veux acheter des couches d'adultes, des tissus mouillés pour se baigner et aussi des masques. B. Bolehkah saya ikut dengan kamu? Bolehkah saya ikut dengan kamu? En français, pourrais-je y aller avec toi? Saya juga mau membeli sesuatu. Saya juga mau membeli sesuatu. En français, je veux également acheter quelque chose. A. Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. En français, oui, bien sûr. Baiklah, sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. En français, à bientôt alors. Chers amis, voilà cette édition du programme Apprendre l'Indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Nous vous reverrons demain avec un sujet intéressant. Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs, comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ce.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter les chansons de Dangdut chantées par Rizky Rido. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson intitulée « Me reviens » chantée par Rizky Rido. Bonne écoute.
Setulus hatiku yang kita ucapkan dulu. Jangan kau nodai cintaku. Kini kau pergi, tinggalkan aku. Kini ku masih menunggumu.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Rizky Yahido intitulée « Me reviens ». Cette chanson, qui est leur premier single dans la musique de Dangdut, est composée par Rizky Yahido eux-mêmes avec Bobby Sandy. Elle a été lancée le janvier 2015, qui raconte le sentiment de sous et blessé. Bien que la chanson ait le rythme ballade pop, mais cette chanson a une forte lyrique. L'arrangement de sa musique a été créé avec le rythme léger de Dangdut, en conformité avec leur voix qu'ils étaient encore adolescents, de sorte que rend cette chanson est facile à écouter. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant l'autre chanson de Rizky Yahido intitulée « L'amour qui revient ». Bonne écoute.
Give me
kau pergi.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.